À plus d'un titre, deuxième partie avec vous, Nicolas Jounin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et vous venez de publier une enquête intitulée Chantier interdit au public, une enquête donc parmi les travailleurs du bâtiment et publiée aux éditions La Découverte dans l'excellente collection Enquête de terrain. Alors, je l'ai dit, vous êtes sociologue, vous êtes maître de conférence à Paris 8, chercheur à l'URMIS, un laboratoire associant plusieurs universités, le CNRS, et consacré à l'étude des migrations. Justement, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Ce livre est donc le résultat d'une longue enquête de terrain menée entre 2001 et 2004 et représentant une année complète d'immersion dans les milieux du bâtiment, les chantiers, les agences d'intérim. Alors, les lecteurs du journal Libération ont pu, il y a peu de temps, ont pu lire une interview que vous avez donnée dans le cadre d'un dossier sur l'immigration choisie et la régularisation des sans-papiers. Des sans-papiers qui ont un travail et sur demande donc de l'employeur. Une interview intitulée, non sans malice, un sociologue clandestin dans le BTP. C'était votre situation, je crois, exactement. Vous y revenez donc sur le nombre important dans cette interview de sans-papiers embauchés dans le bâtiment. Et en esquissant une explication de cet état de fait, vous évoquez une situation qui concerne directement votre enquête. Je vais lire, le journaliste vous demande, la journaliste, c'est-à-dire de Catherine Corollaire, les travailleurs sans-papiers se voient parfois accusés de dumping social. Et vous répondez, le recours aux sans-papiers a permis aux entreprises de faire l'économie d'une réflexion sur le moyen de retenir et de fidéliser leurs salariés. Elles savent qu'elles finiront toujours par trouver des bras. Et ça, vous en parlez dans votre livre, Nicolas Jounin, c'est un problème très ancien. Le soi-disant manque de main-d'œuvre dans le bâtiment.
Effectivement, c'est peu de choses a priori sur le bâtiment, mais s'il y a une chose que tout le monde sait a priori justement, c'est qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ça apparaît tout le temps dans les médias. C'est un discours qui est relayé par les organisations professionnelles du secteur. On a l'impression que c'est une pénurie récente qui se manifeste ces dernières années. On sait moins effectivement que c'est une pénurie qu'on proclame depuis des décennies. Oui. Et déjà donc en 1964, Francis Bouygues écrivait un texte où il disait « on a un problème de pénurie de main-d'œuvre ». Et en réalité, bien avant Francis Bouygues, dès la fin du 19e siècle, les patrons du bâtiment diagnostiquent une pénurie de main-d'œuvre. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment peut-on faire un tel diagnostic de manière aussi récurrente sans y apporter de solution.
Mais oui.
On n'est pas dans les professions de la santé où, par exemple, il y a un numerus clausus à l'entrée où il y a un robinet qui coupe l'afflux de main-d'œuvre de médecins ou d'infirmières. Là, on est dans un secteur où c'est le marché du travail qui fonctionne. Donc, on a envie de se dire, le marché, c'est la loi de l'offre et de la demande.
Oui.
S'il vous manque de l'offre de travail, augmentez les salaires, améliorez les conditions de travail. Et ma foi, cette pénurie disparaîtra d'elle-même. Si effectivement ce n'est pas ce qui arrive, c'est parce que, comme le disait le directeur du recrutement d'un grand groupe que j'ai interviewé, au fond, on trouvera toujours les bras pour faire le travail.
Oui, oui.
La question, c'est quels bras et comment. Et donc, effectivement, ça peut être un certain nombre de sans-papiers. En tout cas, pour le gros œuvre en région parisienne, ce que j'ai étudié, des étrangers, très majoritairement, et qui ont des titres de séjour précaires ou qui sont sans-papiers.
Alors, c'est ce que vous appelez, Nicolas Jounin, la discrimination inversée pour les sans-papiers, donc qui sont évidemment des étrangers la plupart du temps, et dans une situation difficile, précaire.
Oui, alors pour reprendre les termes d'un commercial d'intérim, les commerciaux d'intérim étant donc les personnes qui recrutent et sélectionnent les intérimaires, un commercial d'intérim qui explique en entretien, si d'un côté j'ai un beauf, ce qui veut dire un français dans son langage, et de l'autre côté j'ai un boubou, ce qui veut dire un immigré ouest-africain, toujours suivant sa manière de voir, c'est clair que je vais prendre le boubou. Parce que lui, il va plus facilement répondre aux attentes des chefs. Il va pas revendiquer. Il sera au chantier quand on lui dit d'y être, etc. Donc moi, quand j'ai essayé de me faire embaucher au début comme manœuvre, étant blanc, ça a été un petit peu difficile et on peut dire qu'il y a une discrimination inversée. Cela dit, une fois que j'ai mis le pied dans le bâtiment, que certains employeurs m'avaient remercié, j'ai bénéficié très clairement d'une discrimination plus classique, à savoir que j'avais plus de chances de progresser que mes collègues ouest-africains.
Alors, on l'a entendu à l'instant, Nicolas Jounin, il y a une espèce de racisme ordinaire permanent dans ce milieu. Mais avant d'en parler, je voulais citer, parce que vous résumez très bien dans votre livre ce qui fait l'objet aussi de votre enquête. Vous dites qu'en mettant les gens au travail sous des formes d'emploi précaires, on ne gagne en soumission que jusqu'à un certain point. Forcément, on le comprend. Donc c'est la tension que veut explorer votre livre. Je vous cite, d'un côté, des politiques d'entreprise visant une externalisation, enfin, c'est les sous-traitants, la sous-traitance, donc une externalisation, on va en reparler aussi, et une précarisation de la main-d'œuvre, relayée par le statut fragile des travailleurs visés majoritairement immigrés, de l'autre, une soumission, mais aussi des résistances certes tenues, éparpillées, silencieuses, mais têtues, qui menacent à l'occasion les constructions et contraignent les employeurs à mettre en œuvre des stratégies de compensation. C'est résumé. Hein,
oui, là-bas, c'est la synthèse du début du livre, donc c'est un peu très synthétique. Mais disons que ce qu'on observe sur les chantiers, dans le bâtiment de manière générale, au niveau syndical, c'est très faible. Il y a une syndicalisation très faible. Il y a de manière générale des contestations collectives organisées très faibles. En 9 mois sur des chantiers, j'en ai observé une, et justement qui ne concernait pas les sous-traitants et les intérimaires, qui restaient complètement en marge du mouvement social. En revanche, ces sous-traitants et ces précaires intérimaires, s'ils n'ont pas les outils classiquement étudiés par la sociologie des mouvements sociaux de l'action collective, posent toujours des problèmes à leurs employeurs par de multiples résistances individuelles, par des défections, par des absentéismes un peu impromptus, par une mauvaise volonté parfois dans l'exécution du travail qui peut confiner au sabotage. Et donc il y a une exécution de plus en plus distanciée du travail qui pose problème aux entreprises et qu'il leur faut compenser.
Oui, alors on verra que ça n'est pas le seul problème avec vous. Alors vous avez, Nicolas Jounin, étudié cette sociabilité bien particulière du chantier, ce racisme ordinaire dont nous parlions, donc des plaisanteries à la limite, avec, avez-vous noté, une inflexion le soir avec la fatigue ou en cas de problème?
Oui, je raconte notamment une journée de travail assez ordinaire où je suis manœuvre, où je travaille avec deux manœuvres et où toute la journée est ponctuée de blagues racistes à leur égard. Des fois de racisme qui ne prend pas la forme de blague, mais la plupart du temps, ça passe plutôt par l'humour. Avec à la fois des répliques, des manœuvres qui ne restent pas silencieuses, qui peuvent éventuellement envoyer eux-mêmes des injures sur le mode de la blague. Des injures qui, cependant, ne sont jamais symétriques, puisqu'il n'y a pas d'équivalent à macaque, qui est quand même un terme raciste difficilement retournable. Et puis, c'est peut-être aussi difficile d'inverser la relation, de renvoyer une injure symétrique, parce que, malgré tout, ces manœuvres-là savent qu'ils sont manœuvres, qui sont intérimaires, qui peuvent être envoyées du jour au lendemain. Et donc, il faut pas non plus qu'ils outrepassent leurs droits, entre guillemets. Donc il y a comme ça une sociabilité par l'humour qui se met en place, par l'humour raciste, qui effectivement à fin de journée, avec l'augmentation des cadences parce que on s'aperçoit qu'on n'a pas pu couler tout ce qui était prévu sur le planning, avec l'énervement, vire de moins en moins à l'humour et de plus en plus à l'insulte purement raciste. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'après, en interviewant un de ces deux manœuvres, je lui demandais comment il vivait ces interpellations racistes permanentes. Il disait, au fond, il faut faire avec, c'est comme ça qu'on dit sur le chantier.
Vous dites même que ça peut être un indice paradoxal d'intégration, quoi. Et puis, pour certains, la promesse d'une stabilité toute relative dans leur métier.
Voilà, c'est le paradoxe. C'est que ces deux manœuvres qui étaient sur le chantier depuis un an, tout en étant intérimaires. Alors, on les avait envoyés un an plus tôt, une agence d'intérim les avait envoyés sur le chantier en leur disant « Allez-y, on ne sait pas pour combien de temps c'est. » Et ça fait un an qu'ils reviennent tous les jours au chantier sans savoir s'ils vont peut-être... Ils vont peut-être être envoyés du jour au lendemain.
Ça, d'ailleurs, ce sont des situations visiblement assez, assez courantes.
Tout à fait répandues. Ouais. C'est illégal, puisque dans les contrats d'intérim, normalement, on doit signer dans les 48 heures du début de la mission. Les agences d'intérim du bâtiment font signer le contrat à la fin de la mission. Voire, elles n'en font pas signer du tout, ce qui permet de renvoyer les gens du jour au lendemain. Donc, Mamadou et Dramé, les deux manœuvres en question, étaient dans cette situation un peu paradoxale où ils sont stables dans les faits, mais précaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent être envoyés du jour au lendemain. Et donc, ces insultes racistes, cette sociabilité raciste qui se met en place, c'est quand même une sociabilité. Et c'est quand même un signe Infériorisant certes, mais un signe d'intégration au chantier et au fait que peut-être ils ne seront pas remerciés du jour au lendemain alors qu'ils ont ce risque qui plane au-dessus de la tête.
Oui, cet humour ethnicisant au travail, dites-vous, assez plaisant pour être objet de rire, assez ambigu pour être porteur de sens. Et alors, c'est vrai qu'on note, en vous lisant, Nicolas Jounin, que la discrimination est vraiment à tous les étages, puisqu'on parle du bâtiment, l'image s'impose, en particulier au moment de manger, par exemple, dans les réfectoires, ou les lieux où l'on mange, et dans les vestiaires également.
C'est à la limite, plutôt que de parler de discrimination, il vaudrait peut-être mieux même parler de ségrégation. Et effectivement, quand par exemple les réfectoires sont dispersés suivant les étages n'ont pas forcément exactement la même couleur. Sur un des chantiers que j'ai observé, le premier étage était blanc, le deuxième étage était, disons, maghrébin et noir, et le dernier étage était entièrement noir, à part moi qui me retrouvais là un petit peu par hasard. Pas complètement par hasard non plus, parce que la ségrégation en fait ne se fait pas forcément sur une base ethnique, mais elle se fait sur une base hiérarchique, sur une base de poste.
C'est assez grossier comme
voilà.
Oui. Mais ethnicisation.
Comme les manœuvres sont quasiment tous ouest-africains, hormis moi à ce moment-là, qui donc suis blanc et français, les manœuvres se regroupent ensemble. Le résultat est que le réfectoire est noir. Et que de l'extérieur, c'est comme ça que ça apparaît.
Voilà. Alors justement, c'est un peu l'explication que vous donnez à ce phénomène aussi. Vous dites, ce n'est pas la persistance d'un archaïsme, ce racisme quotidien, mais une manière d'exprimer et de maintenir une situation tout à fait actuelle.
Oui, c'est-à-dire qu'on a un peu tendance à dire le racisme, c'est quelque chose d'un peu irrationnel, d'archaïque, qui vient d'autrefois, du temps des colonies peut-être, et bon, bah, c'est en train de s'estomper, ça met le temps, c'est comme un navire qui est sur son air, au bout d'un moment, avant de récupérer la bonne direction. Bon, ce qu'on voit sur les chantiers, c'est que le racisme est complètement local, en quelque sorte, appliqué à la situation actuelle des chantiers. Deux exemples, les manœuvres ouest-africains, par exemple, sont très souvent appelées les mamadou, de manière d'une manière généralisatrice, on les appelle les mamadou, on dit le mamadou pour désigner un manœuvre, ou on l'appelle mamadou, peu importe qui s'appelle, par exemple, Touré ou Koïta. Ça ne marche, cette appellation de mamadou, qui n'est pas usitée quand même tous les jours, ça ne marche qu'avec des noirs manœuvres, des manœuvres du bâtiment. À tel point que même des noirs qualifiés appellent des manœuvres noires mamadou. L'autre exemple, c'est les Portugais. Les Portugais qui, maintenant, c'est une origine à peu près invisible dans l'ensemble des discours publics, médiatiques qu'on connaît en France. On ne voit pas un homme politique dire que les Portugais posent problème. En revanche, dans le bâtiment, on a tout un discours essentialisant, raciste sur les Portugais, par ceux qui se considèrent en dessous pour dire sur les chantiers, les vrais racistes, c'est les Portugais, ou ceux qui nous font courir, c'est les Portugais, etc., etc. Donc ça redevient une catégorie pertinente dans le cadre très particulier et très contemporain des chantiers.
C'est ça, finalement, c'est une façon à la fois de marquer la hiérarchie, l'organisation du travail. Alors le travail, justement, on le sait, les chantiers, le monde du bâtiment, c'est très dur. Alors vous le décrivez par le menu, puisque vous y avez passé de longs mois. Il y a donc un rythme infernal, pas de temps mort, ou alors, s'il y a des attentes, et il y en a souvent d'ailleurs, il faut simuler, il vaut mieux ne pas donner l'impression d'être en attente.
Oui, c'est-à-dire que même les contournements, même les détournements, même les petites pauses que s'octroient les ouvriers doivent passer par le « on fait semblant de travailler ». Alors, quitte en réalité travailler pour de vrai, c'est-à-dire que on fait du nettoyage de chantier, on range le chantier, ce qui en soi est utile, mais ce qui est plus reposant que si on se voyait dicter une tâche par un chef. Quitte aussi parfois, ça m'est arrivé comme ça arrive à d'autres, à faire des tâches inutiles, mais au moins reposantes parce que, encore une fois, pas dictées par un chef.
Alors, il y a des situations contradictoires, aller aux toilettes est déconseillé quand on a un besoin, et uriner sur le chantier est interdit. Alors on fait quoi ?
Ça fait partie
c'est les injonctions paradoxales.
Voilà, c'est typiquement, ça fait partie des injonctions paradoxales qui peuvent paraître ridicules racontées du dehors. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si on décide en milieu de matinée, par exemple à 10h, qu'on a besoin d'aller aux toilettes, satisfaire ses besoins, si on croise un chef en cours de route en arrivant vers les baraquements où sont les toilettes, on risque assez souvent de prendre une réflexion du type « tu vas te cacher », etc. Ce qui, du point de vue du chef, peut se comprendre. Parce que il a peu de moyens de vérifier qu'on fait bien notre travail. Il peut pas être tout le temps partout. Donc il faut bien qu'il rappelle sa présence d'une manière ou d'une autre. Et puis en même temps, un certain nombre d'ouvriers pris par les cadences ne prennent même pas le temps eux d'aller aux toilettes et donc urinent sur le chantier et s'exposent là aussi à des réprimandes de la part des chefs. Mmh. Ça fait partie des nombreuses injonctions paradoxales, comme on en rencontre aussi sur la sécurité, qui structure le quotidien des chantiers.
Oui, alors justement, parlons rapidement de la sécurité parce qu'on va sûrement pas avoir le temps de finir. Il faut encore qu'on parle de votre stage de formation en coffrage et ferraillage. Alors la sécurité, c'est évidemment un gros problème sur les chantiers.
Alors c'est à la fois c'est présenté comme un problème par les directions de chantier qui d'ailleurs assurent le prendre en charge, et je dirais ça c'est aussi une partie du problème. C'est-à-dire que les directions de chantier se posent en gestionnaire de la sécurité, en responsable de la sécurité, en même temps par ailleurs qu'elles sont les responsables de la cadence. Et quand on les interviewe, ils peuvent tout à fait reconnaître eux-mêmes qu'il y a là une contradiction. Mais du coup, ça pose les ouvriers en éternel coupable. Coupable de ne pas respecter les exigences de cadence, ou coupable, quand ils essayent de respecter les exigences de cadence, de ne pas respecter les règles de sécurité. Et les ouvriers, du coup, sont obligés de gérer cette contradiction dans la clandestinité. Soit qui créent des règles de sécurité alternatives dans leur coin, qui
bricolent,
soit carrément qu'ils ne respectent pas du tout les règles de sécurité et qu'ils se cachent, quand ils le font, ils se cachent des cadres par peur de sanctions, alors que théoriquement, ces règles de sécurité sont faites pour les protéger.
Voilà un bon exemple. Alors, vous avez également, donc, en somme, exploré un peu tout l'univers du bâtiment, en particulier puisque la sous-traitance est très importante dans le bâtiment. Vous dites c'est minimum un tiers et ça peut être sur certains chantiers jusqu'à deux tiers des ouvriers qui sont des intérimaires. Et donc vous avez suivi, alors il y a dans le cadre d'un stage de formation en coffrage et ferraillage, vous allez c'est très technique, nous expliquer exactement ce que c'est. Donc vous avez eu affaire à ces agences d'intérim.
Alors, en réalité, j'ai donc pas travaillé sur tout le bâtiment, mais sur la partie gros œuvre, sur la partie béton armé, donc la construction des structures des bâtiments, ce qui comprend grosso modo trois métiers si on excepte les grutiers. C'est les manœuvres qui font le marteau-piqueur et le nettoyage des chantiers, les coffreurs qui font le moule du béton, là où on va couler le béton, et les ferrailleurs qui posent les armatures. Du béton armé. Ce stage est un petit peu une parenthèse dans ma thèse. Enfin, je voulais, pour des questions administratives aussi, il fallait que je fasse une formation. On apprenait un peu le métier comme il y a 50 ans. Enfin, c'était assez curieux parce que ça ressemblait pas du tout à ce stage, à ce qu'on apprenait sur les chantiers. Et après, mis à part ce stage, je suis entré sur les chantiers par le biais des agences d'intérim en me faisant recruter comme intérimaire. Et donc là, j'ai été confronté à leurs pratiques, qui est donc de ne pas faire signer de contrat ou uniquement en fin de mission afin de pouvoir envoyer les gens du jour au lendemain, ce dont elles ne se privent pas.
Alors en tant que ferrailleur, on va reparler aussi des agences d'intérim, mais en tant que ferrailleur, c'est un métier qui est assez difficile parce qu'on est évidemment toujours à la merci du béton qui arrive. Et là, lorsque le béton arrive, il faut avoir fini en somme. Et c'est pour ça, vous citez un auteur qui a travaillé une femme sur le même sujet, qui dit que les ferrailleurs sont toujours à la bourre.
Oui, parce que les ferrailleurs, de manière générale, tous les ouvriers du bâtiment sont à la bourre s'ils en croient leur chef.
C'est ça, voilà.
Mais les ferrailleurs encore plus que les autres, parce que les ferrailleurs sont sous-traitants, donc les entreprises de ferraillage se font concurrence entre elles, traitent à des prix bas, font des économies de bout de ficelle sur le matériel, sur le personnel, et donc accumulent plus de retard encore que les autres ouvriers qui déjà sont en retard. Et en même temps, donc ce béton qui arrive et qui nous presse et qui nous fait peur parce que le béton arrive et qui nous oblige à nous exciter, cette sorte de contrainte formidable, inéluctable, cette lame de fond qui nous arrive dessus et qui nous est toujours annoncée par les chefs d'équipe, il s'avère qu'au bout d'un moment, si on est vraiment trop à la bourre, comme ils disent, eh ben le béton attendra le lendemain.
C'est ça.
Et là, on se sent un petit peu floué, faut dire ce qu'il y a. On s'est dépêché parce que le béton arrive, et puis finalement, il n'arrive pas.
C'est ce que vous racontez, absolument. Alors, la sous-traitance, c'est quand même ça peut déboucher sur de graves problèmes. On se souvient de justement à Roissy, de l'effondrement du terminal 2E, et c'est là, d'ailleurs, à cette occasion, que le grand public a pu apprendre ce qu'était que le ferraillage, mais aussi la sous-traitance, parce que on a très vite imputé la cause de cet effondrement qui a quand même fait 6 morts à justement un défaut à ce niveau-là.
Je n'ai pas de révélation à faire sur Terminal 2, mais effectivement, on a pointé du doigt et la sous-traitance et le ferraillage, qui est un métier maintenant sous-traité depuis une trentaine d'années. Je peux citer le patron d'une entreprise de ferraillage où j'ai travaillé, qui disait « Comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de bâtiments qui se cassent la figure en France ?» Parce que effectivement, les conditions de travail actuellement amène à des malfaçons qui pour l'instant ne se traduisent que par des fissures dans les bâtiments. Pourquoi, malgré tout, il n'y a pas plus de bâtiments qui se cassent la figure en France, comme il se pose la question? Je pense parce que malgré tout, les entreprises mettent en place des stratégies de compensation. Certes, elles créent, elles sous-traitent, elles précarisent, mais parmi ces intérimaires, notamment, qui peuvent être majoritaires sur certains chantiers, tous ne sont pas forcément une main-d'œuvre flexible, tournante, qui disparaît du jour au lendemain, qu'on vire du jour au lendemain. Mmh. Une bonne partie de ces intérimaires, on peut dire un gros tiers, parfois jusqu'à la moitié, en fait, sont stables. Ils sont précaires, mais ils sont stables. Ils sont fidélisés par leurs employeurs. Et on peut trouver des ouvriers qui ont 10 ans d'ancienneté dans une entreprise, mais qui, en fait, sont intérimaires.
Alors, cette externalisation, elle ajoute évidemment une discrimination supplémentaire au niveau de l'embauche. Elle est aussi la conséquence d'une logique économique. Et vous, à propos du ferraillage notamment, vous montrez que, bon, elle sous-traite évidemment à des prix très bas. Et ça renforce encore, on évoquait la pénurie de main-d'œuvre au début de cette émission, ça renforce encore ce phénomène de pénurie, et là à la fois de matériel aussi et de personnel.
Le ferraillage est une activité donc qui a été externalisée à partir du début des années 80, qui a été mis en sous-traitance à partir du début des années 1980. Certaines entreprises générales, d'ailleurs, donc les grandes entreprises qui prennent et dirigent les chantiers, comme Bouygues, comme GTM, se sont parfois posé la question de est-ce qu'il faut sous-traiter le ferraillage ou pas, voire même après l'avoir sous-traité, se disaient peut-être qu'il faut le reprendre parce que ça crée trop de malfaçons. Et puis finalement, elles se disaient non quand même parce que ça serait trop cher de le reprendre, mais on va essayer de mieux les contrôler. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à certaines idées du management sur la firme en réseau réticulaire où tout un tas de firmes se mettraient à travailler ensemble de manière égalitaire, là, c'est pas du tout le cas. La sous-traitance n'a vraiment de raison d'être que si les sous-traitants sont soumis et contrôlés au quotidien par le donneur d'ordre. Donc le résultat de cette mise en sous-traitance du ferraillage, c'est que les ferrailleurs en question ont vu leur salaire baisser, et pour qu'on puisse baisser leur salaire, en réalité, un certain nombre des anciens ferrailleurs de l'époque ont disparu, ont été licenciés, et maintenant les 3/4 des ferrailleurs sont en intérim. Mmh. Et ce sont pour beaucoup des jeunes immigrés maghrébins qui ont des titres de séjour précaires d'un an qui est pas toujours facile de voir renouveler, donc qui ont des comportements plus conformes à ce qu'on attendait au travail, voire des sans-papiers. Et quelque chose qu'on peut entendre souvent dans le ferraillage, c'est quand j'aurai mes papiers, je quitte le ferraillage, c'est trop dur. Oui. Quitte à aller travailler pour 150 euros de moins à l'usine, mais ce sera moins pénible.
Oui, parce que c'est vrai que c'est un travail très pénible. Alors, il y a un moment assez drôle où vous parlez de cette négociation permanente, surtout sur les petits chantiers où on est obligé de se prêter les outils et de se les voler aussi.
Ça fait partie du quotidien du travail, effectivement, entre équipes, se prêter, se voler des outils. Mmh. Et ça a vraiment des significations très différentes suivant le statut des ouvriers qui se prêtent à ce jeu-là. Ça peut être vraiment un jeu et vécu comme une manière de rendre le travail moins ennuyeux quand ce sont des ouvriers qui sont plutôt sur un pied d'égalité, qui jouent à ce petit jeu-là. Mmh. Ça peut être source d'amusement, d'astuces, de malice, etc. On s'amuse bien. Dès lors que ça se passe entre des ouvriers embauchés, des intérimaires, par exemple, ou entre des ouvriers de l'entreprise générale et des ouvriers de l'entreprise sous-traitante,
là,
c'est
une hiérarchie.
C'est pris dans ce rapport de hiérarchie où il faut beaucoup plus négocier et il faut beaucoup moins se risquer à voler parce que c'est généralement vécu comme moins drôle quand on est sous-traitant ou intérimaire.
Voilà, c'était votre cas, vous, Nicolas Jounin.
Oui, ça n'a pas toujours été facile.
Alors, vous avez d'ailleurs, à propos de ces boîtes d'intérim, donc vous avez vraiment pratiqué, on peut le dire, pendant toute cette enquête, vous avez eu donc un moment difficile avec un commercial, justement. Alors, vous citez d'ailleurs aussi les propos, parce qu'ils s'appellent commerciaux, hein, ces responsables d'agences ou ces employés d'agences d'intérim. Et vous parlez d'un commerce si particulier. Vous citez une commerciale qui dit « Je préférerais vendre des savonnettes ». Mmh. C'est vrai que ça doit être dur. Hein, je ne parle pas vraiment du métier d'intérimaire, mais la situation elle-même dans une agence d'intérim consacrée ou vouée au bâtiment.
Là, je suis passé récemment devant une agence d'intérim donc dans le quartier de la Gare de l'Est où se concentrent les agences d'intérim du bâtiment. J'y suis passé le vendredi après-midi et c'est le jour où, dans la plupart des agences d'intérim, sont versés les acomptes où on signe, ou éventuellement on signe les contrats de fin de mission, où on a les fiches de paye. Donc, comme une bonne partie de l'activité de ces agences d'intérim est illégale, où il y a des petites escroqueries, plus ou moins à la marge, des fois assez conséquentes, le vendredi après-midi est un moment assez chaud. Et ce que je n'avais jamais vu, ce que j'ai vu pour la première fois, c'est que cette agence d'intérim avait un vigile.
Oui, d'accord.
Donc ça en dit assez long sur l'état de cette relation de travail.
Voilà, vous racontez aussi, vous êtes un jour présenté, un jour de semaine, je crois que c'était justement un vendredi, en plein après-midi, l'agence était fermée parce qu'il y avait eu une agression. Mais cela dit, vous l'avez évoqué, ces agences travaillent le plus souvent dans l'illégalité la plus complète. Vous avez fait l'expérience donc à propos justement d'un incident sur un contrat non signé, un de vos camarades que vous avez nommé Gori, qui avait été renvoyé du chantier, et vous l'avez suivi, le commercial d'intérim s'appelle Philippe.
Oui, tout à fait. Donc il a été renvoyé parce que il voulait pas porter autant de charges que ce que lui demandait le chef, il trouvait ça trop lourd, il avait peur de se faire mal au dos. Moi d'ailleurs j'en portais pas plus que lui, donc je trouvais injuste qu'on le renvoie lui et pas moi. Je suis allé le dire au chef qui, sans surprise, ça l'a pas trop fait sourciller, il m'a renvoyé en même temps. Donc on se retrouve face à ce commercial qui nous dit que, comme on n'a pas fait notre travail alors que nous avons été envoyés seulement une heure avant la fin. En fait, à ce moment-là, le chef n'avait plus besoin de nous et probablement il cherchait un prétexte.
On ment beaucoup hein, sur les chantiers, vous
en parlez. On ment beaucoup et c'est nécessaire dans un contexte de relations très précaires d'emploi. Ouais. Et donc ce chef a refusé de nous payer, donc là je me suis permis de contacter l'inspection du travail, qui a relevé tout un tas de... qui est resté 3 jours dans l'agence, qui a relevé tout un tas de délits de marchandage, prêt de main d'œuvre, etc. C'est passé au tribunal et le tribunal a purement et simplement relaxé l'agence d'intérim. Ce qui est très curieux, alors que les faits étaient caractérisés, il n'y a pas de motif sur l'extrait du jugement. La seule chose qu'on peut dire, c'est que ces pratiques des agences d'intérim de ne pas faire signer de contrat et donc de pouvoir envoyer les gens du jour au lendemain, certes c'est illégal, mais ça anticipe d'une certaine manière sur des dispositifs qui eux sont légaux, comme le contrat de nouvelle embauche qu'on connaît depuis 2005, comme le contrat première embauche qui a été retiré, mais qui augure peut-être d'autres types de contrats de travail.
Oui, oui. Et alors évidemment, vous dites que c'est une invitation à continuer, hein, ce laxisme à l'égard des agences d'intérim.
D'autant que c'est un petit monde et que les agences se connaissent, et qu'un tel jugement ne peut pas rester...
Oui, il fait presque jurisprudence.
un petit peu.
En l'occurrence, oui. Alors, vous concluez votre enquête, Nicolas Joulin, par un chapitre consacré à l'ouvrier impossible. On revient un peu à notre thème de départ, c'est-à-dire sur la pénurie de main-d'œuvre, elle existe aussi au nom de cet ouvrier idéal impossible.
Mmh. Et dont j'étais un petit peu le représentant, je m'en suis aperçu au début. Je pensais que, donc, au début, je l'ai dit, c'était difficile de trouver du travail. Et puis finalement, donc, j'ai été envoyé sur un chantier parce qu'il y avait eu un contrôle de police et que l'effectif d'ouvriers avait été décimé. Donc je me suis retrouvé là avec ma carte d'identité française, complètement protégée des contrôles de police. Je me pliais aux horaires, j'étais assez endurant parce que je savais que ça allait pas durer. Et comme le disait l'un des chefs, c'est lui le ferrailleur comme on en voudrait. Mmh. Mais précisément, j'existais pas, ou en tout cas, je n'existais sur les chantiers et je me pliais à leurs contraintes que parce que je savais que j'allais pas rester.
Mmh. C'était vous l'ouvrier idéal à ce moment-là, Nicolas Joulin. Merci pour cette belle enquête. Je rappelle le titre de votre livre, Chantier interdit au public. Je souligne d'ailleurs le fait que c'est assez inédit comme travail d'anthropologue, de sociologue, ce type de terrain, les chantier du BTP.
Oui, les chantiers ont été très peu étudiés parce que, historiquement, la sociologie du travail, il y a eu des enquêtes par observation participante, comme ça, où des sociologues se sont fait ouvriers, mais c'était dans les secteurs les plus mécanisés.
Chantier interdit au public, une enquête parmi les travailleurs du bâtiment, c'est un ouvrage publié aux éditions La Découverte. Demain, je m'entretiendrai avec Jean-Louis Chrétien, sous le regard de la Bible, c'est le titre de son livre, publié chez Bayard, et Toufik Hakem, à 15h, poursuit donc ses entretiens avec les sélections pour le prix France Culture Télérama avec Véronique Ovaldé et Mon cœur transparent aux éditions de l'Olivier. Merci Nicolas Jounin.
Merci.
À plus d'un titre, Céline Leclerc, Toufik Hakem, Jacques Munier, à la technique aujourd'hui Tanguy Le Corneau, une réalisation de Malika Mesgache. Vous écoutez France Culture, il est 16h.